et bienvenue. Nous vous emmenons aujourd'hui en promenade à Berlin en compagnie de l'écrivaine Irina Liebmann et du dramaturge Pedro Cadivar. Au micro, Clarisse Cosset et...
Zegret Brinkmann. Combien de fois parcourons-nous des rues, des quartiers entiers de notre ville sans prendre le temps de nous arrêter, de laisser notre regard courir sur une façade, d'observer un détail en formulant l'espoir qu'il nous parle, qu'il nous dise quelque chose et nous rappelle des temps anciens et d'autres vies.
C'est au début des années 80 que l'écrivaine Irina Liebmann a commencé à faire ses recherches sur la rue appelée Große Hamburger Straße dans le quartier de Berlin-Mitte. Elle a écrit depuis des textes en prose, des poèmes et des pièces radiophoniques. Son livre « Berliner Mietshaus », un immeuble berlinois, paru en 1982, raconte la vie intérieure d'un immeuble du quartier de Prenzlauer Berg. Elle y fait le portrait des appartements et de leurs habitants et nous renseigne sur le quotidien en RDA. Le quartier du centre de Berlin, Berlin-Mitte, est un topos récurrent dans l'œuvre d'Irina Liebmann. Son dernier livre est consacré à l'histoire de la Große Hamburger Straße.
Cette rue qu'on appelle la Grande Hamburger Straße est en fait toute petite. Elle ne fait que 400 mètres de long. Elle est située entre la Oranienburger Straße, une rue très passante, et la Auguststraße, anciennement appelée Armesündergasse, ce qui veut dire littéralement ruelle des pauvres. Pêcheurs. Pendant la période où la RDA existait, la Große Hamburger Straße était comme un îlot isolé du reste de la ville.
Après la chute du mur, le quartier se situant entre Hackescher Markt et la Friedrichstraße devient un des centres touristiques de la ville. Mais lorsqu'on se plonge dans la lecture du livre d'Irina Liebmann sur la Große Hamburger Straße, on y retrouve la tranquillité d'antan. Tout doucement, lentement, Irina Liebmann dévoile une à une les différentes strates de mémoire douloureuse qui se superposent dans la rue aux nombreux cimetières. Irina Liebmann a parlé avec des habitants de la rue, avec des gens qui y travaillaient et dont certains sont devenus des amis. Elle s'est servie des anciennes cartes de la ville, étalées dans les archives de l'église, a consulté des plans d'aménagement et des annuaires. Au-delà de l'histoire de la rue, c'est aussi l'histoire de sa relation avec cette rue qu'elle met en lumière dans son livre. Irina Liebmann est née à Moscou, elle a grandi en RDA et a fui à Berlin-Ouest en 1988. D'abord journaliste, puis écrivaine, Irina Liebmann a beaucoup travaillé sur les traces du passé, qu'elles soient ancrées dans les bâtiments, les rues, les places ou les habitants de la ville. Ses livres « Berliner Mietshaus »,« Stille Mitte von Berlin » et « Lied vom Hackeschen Markt » en témoignent. Nous l'avons rencontrée dans la Große Hamburger Straße devant une boîte aux lettres par un dimanche matin frisquet.
Also, die Straße beginnt dort vorne, am Kochenplatz. Da sind wir jetzt noch nicht.
La Große Hamburger Straße commence au Kochenplatz. C'est là que nous allons. Ce grand hôpital n'existait pas autrefois, bien sûr. Il n'y avait que des maisons basses et ce n'est que dans la deuxième phase du développement industriel que des petites fabriques sont apparues. Les gens ont vendu leur terrain et construit de nouveaux bâtiments. Ici, le propriétaire avait vendu sa parcelle et c'est là qu'a été créée la confrérie Saint-Charles-Borromée. Ils avaient acheté la maison et souhaitaient faire construire un hôpital plus grand et ils ont commencé à faire des travaux dans la cour.
Ja, ich weiß nicht, wie die sich empfanden hier. Berlin war protestantisch seit dem Mittelalter, seit dem Passierenkrieg. Krieg.
Aber les catholiques, oui, je ne sais pas vraiment comment ils se sentaient ici. Berlin était protestant depuis le Moyen Âge et ils voulaient aussi missionner. Il y a toujours eu des missionnaires dans cette rue, même pendant la période de la RDA. Il y avait les sœurs de Mère Teresa qui allaient et venaient dans la rue pour inciter les gens à reprendre le droit chemin. Et il y a eu aussi des grands mouvements ouvriers.
Und dieses Vereinshaus, das Handwerkervereinshaus.
La maison que vous voyez là, l'association des artisans, est devenue plus tard un des hauts lieux du mouvement d'action pour la culture socialiste. C'était très présent et aussi bien sûr l'église protestante. L'église Sophienkirche était fière d'avoir inventé le service religieux pour les enfants en Allemagne. Et cela a à voir avec les groupes de population de ce quartier qui étaient plutôt athées dans l'ensemble. Et puis beaucoup de gens de ce quartier ont émigré, notamment après la révolution de 1848. On connaît la chanson de Hecker. Hecker est-il encore en vie? Oui, il est encore en vie. Ni pendu à un arbre, ni pendu à une corde, juste accroché au rêve de la République allemande.
Lebt denn der Hecker noch? Ja, ja, er lebt noch, hängt an keinem Baum, hängt an keinem Strick, er hängt an dem Traum der Deutschen Republik. Aber das war schon in Amerika. Die sind gegangen.
Il y a eu des études sur les Allemands qui ont émigré aux États-Unis et sur leur mode de vie, notamment dans la région de New York. On a constaté de manière très significative que ces groupes ne commençaient pas leur installation en construisant une église. De nombreuses personnes ont émigré pour des raisons religieuses, mais pas les Allemands. Ce quartier-ci se trouvait en bordure de la ville. On l'appelle d'ailleurs la banlieue de Spandau, et c'est un endroit où il y avait beaucoup de cimetières. Sur le Koppenplatz se trouvait le cimetière des indigents. C'est là qu'étaient inhumés ceux qui ne pouvaient pas se payer l'enterrement. Et ici se trouvait le plus ancien cimetière juif de Berlin. Tout cela autour de la Sophienkirche, qui a été bâtie sur un terrain que les Juifs leur avaient cédé.
Arme Leute Friedhof, also da konnte man jemanden begraben, habe ich alles geschrieben. Der sich ein Begräbnis nicht leisten konnte, da hat die Kirche dann geholfen.
Dans toute cette partie nord du quartier se trouvent des cimetières. Là, vous avez le cimetière de la paroisse de la Sophienkirche, Saint-Georges, etc. L'orientation est nord-est, c'est là qu'on enterre généralement.
Nous sommes ensuite allés voir une maison jaune assez marquante, située au numéro 15. Chemin faisant, nous avons fait une halte sous un porche et Irina Lippmann nous a lu le début de son livre.
C'était au début des années 80 à Berlin-Est. Ce jour-là, je venais de la maison d'édition Berliner Verlag, qui s'appelait comme cela à l'époque et s'appelle toujours ainsi. Ce n'est pas loin d'ici. C'est mon père qui a fondé Berliner Verlag. Tous ceux qui y travaillaient le savaient, sauf moi. Et bien que j'y ai travaillé aussi, personne ne me l'avait dit. Je l'ignorais. Comme pour ce quartier, je n'en savais rien. Je ne savais rien au fond, et au lieu de passer mon chemin, je m'arrêtais. Tant de choses cachées dans un environnement qui recèle de toute évidence et silencieusement un secret. Un environnement qui ne peut que montrer qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose dont tu fais peut-être partie. Cela ne touchait-il pas ce magma dans lequel nous nageons tous, chacun pour soi, et où un minuscule îlot de clarté qui émerge de cet océan se demande « Dois-je m'attaquer au morceau qui se trouve là-dessous, le toucher ?» J'entrais dans le café.
Also berühren und zugleich betrat ich das kleine café.
Et là, c'est le café?
Oui, c'est le café. Ce café a 100 ans, mais la patronne n'a pas voulu fêter le centenaire. Allons jeter un œil à l'intérieur. Cela me donne envie de pleurer. C'est un café tellement joli. Et des cafés, on en avait si peu pendant la période de la RDA. En fait, il n'y en avait quasiment pas, et celui-ci était tellement bien caché, dans un si bel endroit. Peu de choses ont changé ici. Les cafés privés étaient rares. J'en connaissais un aussi à Halle, où j'ai vécu.
Aber private Betriebe gerade in den 50er Jahren ganz schön schikaniert, steuermäßig oder so. Im Grunde wollte man keine privaten.
À une certaine époque, on embêtait beaucoup les entreprises privées, dans les années 50 notamment. Et la gastronomie en faisait partie. On manquait de restaurants et de cafés. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se procurer du café. Ils devaient le commander, mais on manquait de tout. En tout cas, ceux qui voulaient ouvrir un café ont souvent été empêchés de le faire. Et personne parmi mes amis aurait eu l'idée de dire « j'ouvre un café ».
Jedenfalls ist ja keiner von uns auf die Idee gekommen, ich mache einen Kaffee auf.
La maison dans laquelle se trouve un café depuis plus de 100 ans est classée monument historique. Les bâtiments situés dans l'arrière-cour ont été détruits par des bombes pendant la guerre. C'est sur les murs restants que l'artiste Christian Boltanski a installé des plaques avec les noms des anciens habitants de l'immeuble et donné à ce lieu de mémoire le nom « The Missing House », la maison manquante.
Juste à côté se trouve la maison préférée d'Irina Lippmann. Son ami Manne y avait une menuiserie. L'autrice se demande quel chemin lui a-t-il fallu parcourir pour arriver jusqu'ici. Et elle réalise que le café était devenu pour elle comme un chez-soi, ein Zuhause. Et ce mot-là, dit-elle, n'a pas de pluriel. En face du café se situe la première école israélite libre d'Allemagne qui avait été créée en 1778 par le philosophe des Lumières Moses Mendelssohn. On a du mal à s'imaginer que les salles de classe, la cour de l'école et la maison de retraite israélite voisine aient pu servir de camp de rassemblement à la Gestapo à partir de novembre 1942. De là, les transports partaient pour Auschwitz et Theresienstadt. 50 ans plus tard, en 1993, 27 enfants ont repris le chemin du lycée israélite Moses Mendelssohn dans la grosse Hamburgerstrasse 27 et aujourd'hui, l'établissement compte 500 élèves.
La maison de retraite israélite fut détruite en 1943 et les ruines des bâtiments furent évacuées après la guerre. Autrefois, le cimetière juif se trouvait juste derrière. Aujourd'hui, on y accède directement depuis la rue.
Ursprünglich, weiß nicht, ob die hier ein Foto haben, ja, da sah der aus wie der jüdische Friedhof in Prag. So, ne?
Initialement, il ressemblait au cimetière juif de Prague, avec ses tombes si étroitement rapprochées. Ce que je connaissais, moi, c'était un espace vert complètement différent de ce que nous voyons maintenant. Il y avait une pelouse et plein de petites croix en bois. C'était les morts de mai 1945. En mai 1945, l'armée rouge a ordonné à la population de Berlin de rassembler les morts à certains endroits. Et l'un de ces endroits se trouvait justement ici. Des habitants de la rue me l'ont raconté. Ils pouvaient tout voir de chez eux. Et il doit y avoir eu des montagnes de cadavres ici. Les habitants m'ont dit que comme le mois de mai était très chaud, ça empestait horriblement. Et puis les soldats soviétiques sont arrivés avec l'ordre de sortir leurs morts des tas de cadavres. Ils allaient les enterrer à Treptow. Ça a dû être terrible. C'était un moment très spécial, très étrange. C'était l'heure des comptes, qu'on a appelé plus tard l'heure zéro. En fait, ça a duré peut-être 24 jours, et pendant toute cette semaine dite de la bataille de Berlin, il était clair qu'une victoire n'était plus possible. Il paraît que certains endroits étaient noirs de fumée et que les gens couraient dans tous les sens.
Das war eigentlich die jüdische Schule gewesen.
Ici, c'était l'école israélite, l'école de garçons. Puis lorsque les Juifs ont été déportés, c'est devenu un hôpital improvisé. L'hôpital accueillait aussi des soldats blessés. Il y avait des hôpitaux militaires partout. Imaginez dans ces hôpitaux des soldats partout. D'où venaient-ils? Qu'avaient-ils fait? Ils s'aperçoivent soudain que les Russes arrivent et bien sûr, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils ont fait. Personne ne leur pose de questions, mais eux, ils tentent de fuir. En grand nombre, des foules de soldats, des criminels de guerre, certains venaient juste d'être opérés et se mettaient en route pour fuir. En même temps, les hôpitaux militaires étaient sous la surveillance de la Gestapo et des SS, qui étaient armés jusqu'à la fin. Et régler les choses par eux-mêmes, du genre « quand il fera nuit, nous nous rendrons là-bas et je te garantis que tu n'en ressortiras pas vivant ». Il a dû se passer des choses monstrueuses ici, et la plupart n'ont rien pu raconter parce qu'ils sont morts avant, en mai, ou bien ils sont partis. Est-ce que certains d'entre eux sont revenus? On ne sait pas.
Da habe ich verstanden, wie es so ist, wenn die Geschichte umschlägt, ja. Das Altersheim war ja sehr groß. Das heißt, es ging von hier bis dahin und dreistöckig. Und auf den Friedhof kam man nur durch das Haus durch. Ja?
La maison de retraite était très grande, avec trois étages. Il y avait tous ces morts.
Ja, und dann diese vielen
je ne sais pas comment on peut écrire sur cela. Je n'y arrive pas et je ne peux pas en faire une histoire ni m'imaginer quelque chose. J'ai décrit cet endroit de la façon dont nous le percevions à l'époque, comme un endroit vide ou bien comme un endroit que seul effleurait les souvenirs de ceux qui se rappelaient. Mais la plupart des gens ici ne voulaient rien dire. Il y en avait beaucoup qui auraient pu parler, mais non, ils me claquaient la porte au nez. Dans ces maisons-là, je suis entrée côté rue. J'ai sonné aux appartements d'où on pouvait tout voir depuis les pièces donnant sur la cour, et j'ai posé des questions. Quand les femmes, c'était le plus souvent des femmes, comprenaient à quoi je voulais en venir, elles me claquaient la porte au nez. Les gens qui étaient présents à ce moment-là et avaient vu ce qui s'était passé avaient immédiatement peur d'être accusés. C'est comme ça. Avec le temps qui passe, on ne peut plus être juste. Avec du recul, tout est différent.
Können Sie nicht mehr gerecht sein, wenn Sie dann in einer anderen Zeit sieht alles anders aus, nicht?
En 10 minutes, on peut aller à pied de la grosse Hamburger Straße au Berliner Ensemble, le théâtre mythique de Bertolt Brecht. C'est là que nous avons rendez-vous avec Pedro Cadivar.
Wie Corona oder Corona groß? Hallo, ich bin Pedro. Enchanté.
Pedro Cadivar a fui l'Iran en 1983 pour la France. Il avait alors 16 ans. Dès l'enfance, Pedro Cadivar savait qu'il voulait un jour écrire des pièces de théâtre et les mettre en scène. Il a passé son bac à Nantes, fait ensuite ses études à la Sorbonne et s'est rendu pour la première fois à Berlin en 1992 avec un groupe de metteurs en scène. Le premier lieu qu'ils visitèrent fut le Berliner Ensemble.
C'est un des premiers lieux que j'ai découvert à Berlin. C'était Berliner Ensemble, à l'époque dirigé par Rainer Müller. Et effectivement, c'était aussi un voyage à Berlin avec un groupe de metteurs en scène dans le but de rencontrer Rainer Müller. Effectivement, c'était une présence étrange, cet homme habillé de noir, avec une veste noire et de manière très, je dirais, très banale, très quelconque. Et cette manière de parler aussi, il murmurait des mots. Enfin, ça, moi, je ne comprenais pas l'allemand à l'époque et ça sonnait comme ça à mes oreilles. Et en même temps, il disait des choses très importantes, très intéressantes. Et effectivement, on a visité Berlin ensemble avec lui, qui en était le directeur à l'époque, en 92. Et je me souviens aussi du premier soir à Berlin, où c'était une soirée à l'Académie der Kunst, à l'Académie des Arts de Berlin-Est, qui était en train de disparaître. D'ailleurs, c'était la première phrase que Müller a dite ce soir-là, avant le commencement de la soirée, en commençant la soirée. Il a dit, ici, c'était un beau bateau, et il est en train de couler. Parce que c'était vraiment les derniers jours de l'Académie. Et c'était une soirée avec Cengiz Aitmatov, invité à l'occasion de la traduction de son dernier livre, la traduction allemande de son dernier livre. Et c'était très impressionnant, cette soirée, avec ces deux écrivains sur scène et ce public très en attente, très jeune. Je pense que l'âge moyen était 25 ans plutôt, avec une vraie attente de réponses, avec beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces deux personnes, sur l'avenir de Berlin, de cette époque et de l'Allemagne? Et ça m'a aussi rappelé effectivement le temps de la révolution en Iran où il y avait ces visages-là, pleins d'attentes et d'interrogations, de jeunes visages, c'est-à-dire les quelques semaines avant la victoire de la révolution et puis les mois qui ont suivi où il y avait une certaine liberté politique et où effectivement partout il y avait des réunions, des discussions, des débats organisés avec des écrivains, des intellectuels, des philosophes, des sociologues. Et ça m'a rappelé effectivement cette atmosphère-là, cette époque-là, et c'était de manière tout à fait inattendue. Je ne m'attendais pas à retrouver ça à Berlin. C'était très curieux.
Et avec
Aitmatov précisément, effectivement, que j'avais connu, j'avais lu en persan en Iran, grâce au livre de l'éditeur russe Progress, de l'éditeur soviétique, parce qu'il publie aussi des livres en persan, qui arrivait en Iran. Et donc, moi, j'avais pas mal de livres de cette édition-là, Aitmatov, mais aussi d'autres écrivains contemporains comme Vera Panova, ou alors des classiques, Turgenev, Pushkin. Ils étaient aussi publiés en Progress, et de très beaux livres, de très belles éditions. Effectivement, j'en avais plus entendu parler pendant tout mon temps en France. Et tout à coup, il apparaissait en personne, en chair et en os, devant moi, le premier soir à Berlin. Chingiz Aitmatov, qui avait à l'époque peut-être 70 ans, mais très en forme, enfin, un très bel homme, dans la force de l'âge, comme on dit en français. Dans la force de l'âge, à 70 ans, c'est rare. Mais en tout cas, il est très en forme, et il a parlé. Et je pense que ce livre-là, son dernier traduit à l'époque en allemand, parlait de son voyage au Japon et sa rencontre avec un maître japonais. C'est un dialogue, sous forme de dialogue, effectivement. Ces deux hommes-là, Heiner Müller et Chingiz Aitmatov, l'un à côté de l'autre, ça avait quelque chose de très beau parce qu'il y avait aussi une espèce de calme triste, chez Heiner Müller. Il y avait quelque chose de triste, de très tranquille et de très triste en même temps. Une tristesse tranquille, je dirais. Et chez Aitmatov, il y avait quelque chose de très digne, de très ouvert, de très généreux aussi. Oui. C'était le premier soir à Berlin. C'était très curieux. Je m'attendais à tout sauf à ça, à vivre ça, effectivement. Oui. Tout à coup, tout se réunissait, c'est-à-dire l'Iran, l'enfance, Berlin, Müller, ce qui m'ont préoccupé à l'époque avec mon intérêt pour l'œuvre de Müller. Enfin, tout était tout à coup réuni, là, de manière tout à fait inattendue. Oui.
Pedro Cadivar a travaillé comme assistant à la mise en scène au Deutsches Theater et au Théâtre de Düsseldorf. Il a ensuite fait une thèse à l'Université Humboldt de Berlin. Son mémoire de thèse sur l'esthétique de l'entre-deux chez Proust a été publié à Paris en 2004. Ses études lui permettent d'enseigner à l'université, mais son cœur bat pour le théâtre et il travaille comme dramaturge et metteur en scène à Berlin et à Paris. Il est invité à des festivals à Avignon, Limoges et Édimbourg. Lorsqu'il en a le temps, Pedro Cadivar aime se promener sur le Schiffbauerdamm, le quai le long de la Spree. Il aime aller du Berliner Ensemble vers la Chancellerie et la Maison des Cultures du Monde à Tiergarten, après avoir longé le Reichstag.
C'est une promenade que je fais souvent quand je me balade à Berlin, parce que enfin, je trouve qu'il y a une notion d'espace et un paysage urbain qui, là, sont propres à Berlin. On ne trouve pas ça à Paris. Tout est beaucoup plus étroit, beaucoup plus serré, oui. À part peut-être le Louvre et le carrousel du Louvre et puis toute sa tuilerie et tout l'axe de la défense, enfin de l'arche de la défense, là il y a une certaine notion d'espace. Mais sinon, je trouve que cet espace-là qu'on trouve dans cette promenade, c'est-à-dire de Berliner Ensemble en fait jusqu'à Reichstag et puis après en allant vers Charlottenburg, c'est un paysage très ouvert alors qu'on est en pleine ville. Et puis on marche aussi au bord de l'eau, au bord de la Spree, et c'est une pour moi, c'est Berlin aussi. C'est-à-dire, en fait, trouver cet espace-là dans une ville, c'était quelque chose qui m'a beaucoup réjoui au départ quand j'étais arrivé à Berlin. Habiter là, dans une ville où on a cette notion d'espace. Paris me paraissait étouffant à l'époque. Enfin, surtout après que je m'étais installé ici, à chaque fois que je retournais à Paris, j'avais l'impression que tout était... C'était une autre échelle. Et pour moi, cette notion d'espace, c'est pas simplement urbanistique, c'est pas purement un espace visuel, mais c'est aussi des endroits très importants. C'est, enfin, Berliner Ensemble, Reichstag, Kanzleramt, Tiergarten, ce sont des lieux aussi qui caractérisent en fait la ville de Berlin, son histoire. Et du coup, c'est aussi un espace historique qui est là, un espace qui parle de la ville elle-même. Mais je trouve que c'est marcher tout simplement là. Sur ce chemin-là. Quand on le fait, c'est un concentré de Berlin qu'on reçoit. Et en même temps, c'est un concentré, en même temps, c'est très léger. Une notion de légèreté à cause du sens de cette ouverture de l'espace et à cause de cette construction architecturale que je trouve très réussie. Tout a été, enfin, dans cette partie-là, jusqu'à Tiergarten, tout a été construit après la réunification. Et je trouve que c'est très réussi du point de vue du paysage urbanistique.
Pedro Cadivar a longtemps fait l'aller-retour entre Berlin et Paris. Inspiré par ses pérégrinations, il a écrit le Petit Livre des Migrations qui est paru en 2015. Voici un extrait de cet admirable récit.
Peut-être que Berlin attire depuis longtemps les trentenaires perdus et désorientés qui aiment la vie, mais pas la leur, dont ils ne savent que faire. Peut-être est-ce une ville qui console, qui apaise, qui vous accueille égaré, tout désemparé que vous êtes, qui vous accorde le droit d'être perdu et vous dit même que c'est bien ainsi, qu'il le faut si vous comptez avancer, qui vous encourage à vous regarder en face, en pleine perdition, et vous dit que vous trouverez le chemin par vous-même. Peut-être dans son histoire récente de ville divisée puis réunifiée, ai-je reconnu en elle une image de moi-même au point d'y élire domicile.
Même si Pedro Cadivar se sent maintenant chez lui à Berlin, il est néanmoins très important pour lui de continuer à se rendre régulièrement à Paris, où il a des amis et où il est en contact avec divers théâtres. Après un séjour parisien, Pedro Cadivar a passé plusieurs années à Nantes et il garde des sentiments très forts pour la province et la vie à la campagne.
Il y a quelque chose de très particulier dans la province française, quelque chose, enfin, j'ai un certain attachement en tout cas, et je retrouve toujours cette atmosphère-là, où que je sois en province, en France. Et c'est quelque chose de très touchant, de très... Ce sentiment, ce que tu disais, Sigrid, le sentiment d'être protégé justement, d'être... On est à l'étroit, mais on se sent protégé. Et puis, ça a quelque chose aussi de très catholique, de très traditionnel. Mais peut-être que c'était aussi quelque chose qui me parlait à l'époque, enfin, quand j'étais arrivé en France, après Paris. Et je suis toujours très ému quand je me retrouve dans ce contexte-là, où je reconnais aussi la structure, la forme de la ville, la cathédrale, l'église, la place centrale. Il y a quelque chose de très urbain en même temps dans ces villes-là. C'est vraiment des structures urbaines. Une organisation urbaine avec la mairie, avec le quartier commerçant, avec et c'est comme si je venais aussi quelque part de là. Je m'identifie un petit peu à ça aussi. Le français, la France, c'est aussi ça pour moi, la province française, parce que ça m'a marqué aussi. C'est une période très étrange de toute façon pour moi, depuis que j'habite à Berlin. Je n'ai jamais vécu un temps aussi long loin de Paris, parce que j'étais toujours régulièrement à Paris, des allers-retours réguliers. Et là, c'est très étrange pour moi, parce que Paris, tout à coup, me paraît très éloigné, très inaccessible. Et d'un côté, ça me manque.
Il y a une manifestation.
Ah oui.
Contre le racisme.
Ah, ok.
Le racisme est un virus, je crois qu'ils ont mis sur les pancartes.
Ok. Non, c'est plus loin. Peut-être qu'ils l'ont mis à plusieurs endroits, c'est possible. Mais en effet, je pense que vous avez raison. Non, mais ça, c'est Reichstag, de toute façon, c'est pas...
En fait, c'est là, on l'a raté,
on ne peut pas parler, on l'a raté. Curieusement, c'est Berlin, c'est pas l'Allemagne, pour moi. C'est Berlin, et j'oublie quasiment parfois dans quel pays nous sommes. Berlin, c'est un pays en soi. Oui, mais ce que je voulais dire par rapport à Paris, c'est que c'est un sentiment étrange parce que, à la fois, je me sens maintenant très. Tout à coup, Paris devient très loin à cause de la situation. Et en même temps, je sais pertinemment que ça va être très triste si je pars à Paris. Enfin, dans cette situation-là, vivre la ville en cet état-là, c'est quelque chose de plutôt triste. Là où tout est fermé, les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, les restaurants, les cafés, en fait, sont les lieux où je vais en général quand je suis à Paris. Donc ça, du coup, je n'ai pas très envie non plus d'y aller.
La nature étant présente au cœur de la ville de Berlin, qui compte de nombreux parcs, des lacs et une multitude de rues arborées, il est plus facile pour Pedro Cadivar, et pas que pour lui, de supporter les contraintes liées au confinement actuel. Celle-ci touche également son activité professionnelle. Il garde espoir de pouvoir mettre en scène sa pièce « L'art de la fuite » en septembre 2021 à Erfurt. La première représentation a eu lieu au Théâtre Gorki de Berlin. Les comédiens étaient des réfugiés qui abordaient la question de leur homosexualité et de leur transsexualité. Et maintenant, Sigrid va nous faire part de son coup de cœur du mois.
J'ai lu le nouveau livre de Nils Trede, D'un trait. Richtung Süden, vers le sud, est le monologue d'un homme cultivé, père de deux petits-enfants qui se retrouvent au chômage. Pendant la journée, il erre dans les rues, observe les gens et devient de plus en plus irritable. Il aimerait parler aux autres et leur dire qu'il les perçoit bien, mais il ne trouve pas les mots pour le dire. Manifester sa compassion, c'est aussi se dénuder. Et il a peur qu'on le comprenne mal. Le narrateur du livre de Nils Trede est un homme très seul. En cela, il ressemble au héros de son roman « La vie pétrifiée ». Mais quoi que fasse ce grand solitaire, il ne perd jamais rien de sa profonde bonté et de son amour pour la vie. Il y a une scène clé dans le roman, c'est ce moment où le narrateur emmène son fils à l'école et voit un père gifler son enfant dans une salle de classe. Il est abasourdi, mais s'en va sans rien faire. Et il songe en permanence à l'enfant humilié et à la misère de ce père violent. Dans ce livre, il est question de la façon dont on se rend coupable lorsqu'on assiste à des actes de violence sans intervenir, et aussi de la tentative qu'on peut mener pour, peut-être, sauver la situation. C'est comme cela qu'il faut comprendre la décision de partir en direction du Sud, là où depuis des années des naufragés atterrissent aux frontières de l'Europe. Nils Trede vit depuis plus de 20 ans en France où il exerce la médecine. Il a écrit ses premiers livres en français, mais celui-ci a été conçu en allemand. À mes yeux, son roman, qui compte à peine 80 pages, est un véritable cadeau.
Un véritable miracle a été pour moi la découverte du roman de Lutz Seiler au titre mystérieux Stern 111. Stern 111, cela veut dire étoile 111, et c'était en fait le nom d'un modèle de transistor qui joue un certain rôle dans le roman. Le livre a reçu un accueil enthousiaste de la part de la critique et on a décerné à Lutz Seiler le prix de la foire du livre de Leipzig en 2020. Ce roman, qui aborde la période allant de la chute du mur à 1994, devrait prochainement paraître en français. Lutz Seiler vit à Stockholm et à Wilhelmshorst, près de Berlin. Nous allons lui rendre visite en mai. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Un grand merci à Monique Rival qui nous a prêté sa voix et à Jean Chimchak qui a assuré la technique. C'était Litteramour en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann.